je m'interrogeais sur la manière de permettre à des artistes de, d'avoir un accès à cet univers. Et on a un petit peu entendu déjà ce matin que, des témoignages de ce type de démarche qui changent la donne, pour, je pense, pour un ou une artiste par rapport à une, un travail en cours, une recherche. C'est vrai que ça ouvre une autre perspective sur les moyens de production, sur d'autres codes de travail, d'autres logiques, d'autres contraintes qui bousculent les paramètres pour l'artiste, mais aussi évidemment de l'autre côté pour le monde du travail. Donc il y avait ce désir, et maintenant je dirais à Jean-Pierre, je vais essayer de faire court parce qu'on n'a que 25 minutes et j'aurais tellement de choses à vous dire, mais je vais essayer d'être synthétique. Mais en tout cas, le lien avec Jean-Pierre, c'est que j'étais dans ces réflexions, ces recherches, et je suis tombée sur un entretien dans la revue Mouvement, entre Jean-Pierre et je ne sais plus quel critique d'art. Et j'ai été très touchée par ce que Jean-Pierre disait. Donc voilà, je l'ai contacté et il a reçu mon appel avec un bras ouvert, en fait. Je lui ai expliqué un peu mon dessin, ce que je souhaitais faire. Et j'avais rencontré comme ça 2-3 personnes, dont notamment Pierre Boudard, qui à l'époque était à la DRAC et essayait de aussi créer des liens entre les artistes et le territoire de la Défense, qui est un territoire qui est complètement occupé par des grandes entreprises. Voilà, donc, et tout ça, ça m'a fait avancer sur ce chemin un peu acrobatique, je dois dire, de aller à la rencontre des entreprises, mais pour les artistes avant tout. Est arrivé, je vais essayer de faire très rapide, est arrivé un concours qui était lancé par un certain Armorac, une association à Rennes, qui donc proposait à une équipe d'organiser une biennale, enfin 2 éditions de biennale autour des relations entre art et économie, art et entreprise. Et je me suis dit, parce que j'essaie de trouver une forme, d'expérimenter ça, ben, peut-être c'est l'occasion d'expérimenter ce que j'essaie de mettre en place, c'est-à-dire vraiment partir du projet de l'artiste, trouver une entreprise pour lui permettre de rentrer dans cet environnement-là et de travailler de l'intérieur. Et donc voilà, donc ça s'est passé, j'ai gagné ce concours et on a mis en place ce projet de résidence en entreprise, donc avec les sources. Les sources, c'était pas seulement, c'était pas tout le projet, parce qu'il y avait quand même derrière une exposition avec des attendus de la part de ce Armorac et aussi de la ville de Rennes, de la métropole, enfin des tutelles en fait, une exposition grand public. Donc il fallait composer avec tout ça. Mais pour moi, les sources, c'était vraiment le point de départ. Donc les sources, ça veut dire séjour de recherche et de création en entreprise. Et j'aimais bien cet acronyme parce que il y avait, avec la source, il y avait, on sait d'où ça vient, mais on ne sait pas où ça va, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on sait un peu, on sait d'où ça jaillit, mais ça coule. Et puis après, bah, advienne que pourra sur le lit de la rivière. Et donc il y a d'ailleurs un projet d'Alain Bernardini qui s'est appelé « Qui sort de son lit pour aller couler ailleurs ?» Donc c'est un projet qu'il a fait dans le cadre d'une source, dans cette idée qu'il y a cette résidence, mais on peut tout à fait dévier aussi de ce temps de travail. Donc pour la Biennale, donc, que j'ai appelé « Valeurs croisées », ça c'est le titre de l'exposition de 2008, hein, dans cette idée de croiser, en fait d'essayer de travailler à la croisée entre 2 univers de production de valeur, parce que c'était un peu la grande question dans les années 2000, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'évaluation, la quantification, même l'évaluation des politiques publiques, enfin voilà, des évaluations dans tous les sens, des tableaux Excel qui se développaient, et qui finalement conditionnaient beaucoup l'activité publique comme privée. Donc ça me paraissait être une notion très importante, et valeur croisée, parce que valeur... Qu'est-ce qui se passe quand on questionne la valeur à la croisée entre l'acte de production artistique et l'acte de production que je ne sais pas nommer, parce que c'est normal, est-ce que c'est l'acte de production industriel, non ? Enfin, c'est très difficile de nommer le champ de la production, enfin, le champ du travail non artistique quand on vient de l'art, en fait. C'est très difficile parce que c'est comme si, du coup, on considérait l'art comme étant une chose en soi, comme étant un critère définitoire pour le reste étant ce qui est normal. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est toujours très compliqué pour moi de nommer le champ de la production capitaliste. Ouais, plus comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe à la croisée de ces 2 champs de travail, avec toute la complexité de ce questionnement ? Parce qu'en fait, un artiste est un entrepreneur aussi, qu'il y a des salariés d'entreprise qui sont des artistes. Enfin, voilà. Donc il y a toute une gradation et un moirage qu'il ne faut surtout pas oublier. Et donc qui fait que la confrontation entre ces deux champs ne peut pas être binaire de toute façon. Donc les sources, ça a été une quinzaine de résidences en entreprise, très différentes les unes des autres, mais qui partaient quand même d'un protocole similaire, donc avec comme principe de départ le souhait de l'artiste. Ça, c'était la première des choses, c'était que vraiment, moi je suis allée voir des artistes parce que j'appréciais leur travail et pas parce qu'ils avaient travaillé en entreprise, en leur proposant cette opportunité, en leur disant, voilà, il se peut qu'on ait la possibilité de rentrer dans un environnement où se produit quelque chose, et vous pourriez travailler à partir de cette réalité chargée, cette réalité habitée, cette réalité traversée par plein de choses. Et donc, ça a été le premier pas, et ensuite, on est allé à la recherche d'entreprise. Les artistes ont d'abord, en plus de leur intention, déterminer un certain nombre de types d'entreprises ou de secteurs d'activité qui les intéressaient. Donc je peux en citer quelques-uns. Claudia Triosi voulait travailler avec une entreprise qui fournit des repas collectifs, par exemple. Ça, c'était une première chose. Marie Reiner voulait travailler plutôt avec une entreprise ou un organisme qui fournissait du service. Mathieu Mercier, lui, s'intéressait plus à une production, à travailler sur des compétences en production matérielle, donc un échange de compétences. Enfin, il y avait plein de choses très différentes. Et donc, on s'est mis en quête de ces entreprises. Ce qui a pu nous aider, c'est parce que, et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je vais le dire maintenant, mais c'est qu'en fait, tout ce projet de biennale a été lancé, je parlais d'Art dans l'Arc, par un mécène. Donc c'est pas une association publique, c'est pas une entité publique, c'est une entité privée, un mécène. Donc Bruno Caron, qui est un patron de l'agroalimentaire rennais, qui avait à l'époque le vent en poupe, je pense maintenant j'en sais rien, mais peu importe. Donc c'est les crêpes Poirou, Donna, enfin, je le dis peu importe, hein, mais c'est quand même des marques qui sont dans le grand public, connues du grand public, et qui lui il est collectionneur, pour son entreprise, et il voulait créer un événement en mettant 1 million d'euros sur la table, ce qui était considérable pour une ville comme Rennes, hein, qui n'avait pas les moyens de faire quelque chose comme ça. Et d'une certaine manière, évidemment, pour lui, le but, c'était quand même de redorer un peu le blason de l'agroalimentaire breton, qui est sacrément abîmé, et je ne pense pas qu'il y soit parvenu avec ces biennales. Pour moi, c'était déjà, enfin, quelque part, c'était. Pour moi et mon équipe, c'était déjà une résidence en entreprise qu'on a fait en répondant à cet appel à projet. On a mis en place des résidences avec des artistes, mais c'était déjà, on le vivait déjà, parce qu'on était quelque part en résidence aussi dans une entreprise qui était cette holding Norac, qui avait une association pour l'art Norac, qui mettait cet argent et du coup qui donnait à cette biennale une coloration entre privé et public. Elle s'est tout de suite accompagnée, cette association d'acteurs des tutelles, donc régions, villes, ministères, enfin, etc., DRAC, etc. Des personnalités aussi professionnelles, le directeur du centre d'art local, un critique d'art indépendant, pour avoir un sorte de comité de, pas de pilotage, mais un peu de comité de suivi qui était assez utile comme garante éthique du projet. Et qui était pour moi une sorte de garde-fou par rapport à ce qui pourrait apparaître comme un droit léonin de la part du mécène, mais qui a à peu près respecté, qui a respecté complètement les choix artistiques. Par contre, là où la résidence en entreprise qu'on a menée avec mon équipe, donc Art2Biz, l'association que j'avais fondée pour ça, elle était aussi un endroit de confrontation entre deux logiques, d'industriel et puis logique de monde culturel, et ces deux logiques étaient amenées à se confronter. On ne parlait pas forcément le même langage, qu'il a fallu apprendre à se parler, et pour certaines choses ça marchait très bien, pour d'autres c'était plus compliqué, notamment la communication. Mais donc je reviens maintenant aux sources. Si j'ai fait ce détour par le mécène, c'était pour dire que en fait la position de Art Norac sur Rennes en tant que mécène faisait que ça facilitait le contact avec les entreprises, parce qu'il y avait déjà une entreprise engagé dans la boucle, quelque part. Mais après, ça n'a pas ouvert toutes les portes. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a des entreprises qui ont dit non, donc il a fallu qu'on relance la machine, qu'on reparle avec l'artiste pour voir un petit peu comment on pourrait reconfigurer le projet. On avait une liste de 150 entreprises sur la place de Rennes, il y en a peut-être 40 qui étaient intéressées, et puis au final, il y en a peut-être il y en a une quinzaine qui ont participé à différents degrés. On a déterminé aussi pour ces sources, je vous parlais d'une sorte de protocole, hein. Le premier protocole, c'est partir du souhait de l'artiste qui choisit l'entreprise. On cherche l'entreprise. Si elle dit oui, c'est bien. Si elle dit non, on en cherche une autre. Deuxième principe, c'était une résidence qui était menée par le mécénat, un petit peu différemment de ce qu'on a vu ce matin. En fait, les entreprises qui répondaient oui payaient un don en mécénat à Amorac. Et à partir de ce don en mécénat, nous, on organisait comme on voulait la dépense, en fait. Donc, il y avait des honoraires, il y avait un financement d'une production qui était assez conséquente. Je pense à peu près, pour nous, en tout cas, c'était à peu près 6 000 ou 7 000 euros de production, 4 000 euros d'honoraires, je crois. Et après, il y avait les à côté, les logements, enfin, tout ça, peu importe. Et donc, ça, c'était un petit peu le ticket d'entrée pour faire ces résidences. Ces résidences ont eu lieu évidemment avant l'exposition parce que s'il n'y avait pas d'obligation de produire une œuvre, il y avait quand même la nécessité de donner témoignage de ce qui se serait passé pour que le public puisse aussi pour ce possible d'en partager les fruits avec un public. Donc au final il y a quand même eu une quinzaine de propositions d'œuvres. Donc, je vais vous en montrer quelques-unes, mais je pensais déjà poser le contexte. Ce qui était important aussi, c'est qu'il y ait une personne à l'intérieur de l'entreprise, on l'a vu un petit peu aussi tout à l'heure, hein, qui soit un peu la référente. Et c'est vrai que souvent, c'était aussi des personnes qui étaient sensibles à l'art ou qui avaient une position un peu particulière dans l'entreprise. Notamment, je pense à un directeur de production d'une entreprise de fabrication de matériel agricole qui avait fait les Beaux-Arts de Nantes et qui s'était retrouvé directeur de la production dans cette usine. Et puis il y avait la question par où passer, par où entrer dans l'entreprise. Ça, c'était très important et c'est là où Jean-Pierre, on a eu pas mal de discussions. Grâce à toi, on était allé voir donc les représentants de ce syndicat que tu ne veux pas nommer à Rennes et on était sortis de là un peu dépités, je me souviens, en se disant ça va être compliqué de passer par le syndicat. Ta position, c'était de dire, je pense que si je me rappelle bien, hein, si on ne passe pas, si on n'a pas l'assentiment de la direction, on ne va pas y arriver. Et effectivement, il fallait quand même avoir, on ne pouvait pas passer par le comité d'entreprise. C'était un petit peu ça. C'est une question qui s'était posée, mais peut-être que tu moduleras. Hein, mais en tout cas, on s'était dit, en tout cas après ce rendez-vous-là, que c'était peut-être nécessaire, en tout cas d'avoir l'assentiment de la direction et de voir après comment on pouvait travailler une fois rentré dans l'entreprise. La manière dont je voudrais procéder maintenant, c'est de travailler à partir d'une grille d'évaluation qu'on a réalisée quelques personnes ont été réunies dans ce que j'ai appelé une cellule de réflexion sur la durée de l'opération en fait, à partir du début des résidences en novembre 2007 jusqu'à la réalisation de l'exposition donc, printemps, juin, juillet. Cette cellule de réflexion, elle s'est réunie pour accompagner ce travail, apporter un appareil critique aussi, et elle était composée de personnes qui pouvaient représenter un peu les différents niveaux d'intervention autour du projet. Donc il y avait aussi bien des artistes qu'un sociologue, Laurent Jean-Pierre, un philosophe, Maurizio Lazzarato, qui travaillait sur le travail à l'époque, notamment le travail des intermittents, une critique d'art, Chantal Fondrillon, François Deck, un artiste, Jean-Pierre également, et puis des salariés des entreprises, des étudiants des Beaux-Arts, enfin voilà, différents intervenants qui venaient pour m'aider à poser toutes ces questions, parce que si elles résident dans son entreprise, elles n'ont rien d'évident. Elles ne sont que des questions, et aujourd'hui, je n'ai toujours pas les réponses. En tout cas, on a développé une grille d'évaluation avec un certain nombre de questions qui répondent à la question, enfin, des questions qui essayent de nous faire avancer sur la valeur d'une résidence. Qu'est-ce que ça apporte, en fait, une résidence en entreprise? Qu'est-ce que ça permet de générer quand est-ce que ça échoue, en fait? Quand est-ce que ça réussit? Quand est-ce que ça échoue? Et le fait, qu'est-ce que ça veut dire quand une résidence échoue, en fait? Échoue pour qui? Parce que forcément, il y a des intérêts contraires ou différents ou qui se frictionnent en permanence. L'artiste ne va pas chercher la même chose que le salarié, qui ne va pas chercher la même chose que le patron. Enfin, chacun va avoir à son endroit une action. Je vais commencer à passer des images, sinon vous allez me dire que je parle trop. Mais en tout cas, peut-être... ça, là. Là. Ah, d'accord. Là. C'est où, là? Il y a un truc qui s'est mis. Oh, bon. C'est pas grave. Je vais faire... ouais, je vais faire ça. Désolée. Voilà. OK. Par rapport à cette grille d'évaluation, je peux vous lire une ou deux questions. Et on va, je vais passer des exemples, comme ça, ça vous parlera. Par exemple, quel est l'impact de la présence de l'artiste et de son travail sur les salariés, sur la représentation qu'ils ont de leur propre travail et sur le regard qu'ils portent sur l'art contemporain? On a commencé à voir un petit peu ça ce matin déjà, je pense notamment à la question sur le changement de perspective sur l'art contemporain de la part des salariés. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est l'impact de l'artiste sur la manière dont les salariés voient leur travail. Déjà, quand on parle de salariés, il n'y a pas qu'un type de salarié, il y en a plusieurs. Il y a quand même le patron, il n'est pas forcément salarié, mais il paye quand même. Mais il y a le cadre qui ont certaines responsabilités, qui encadrent, et puis après les ouvriers, puis il y a toute une gradation. Et donc forcément, la manière dont les salariés vont voir leur travail à travers les yeux ou le travail de l'artiste, ça va changer selon la position dans l'entreprise et selon le rôle dans l'entreprise. Donc c'est assez compliqué d'avoir une réponse fixe. Donc par exemple, je ne vais peut-être pas prendre cet exemple-là. Ça peut être intéressant. Alain Bernardini, qui est un artiste, mais c'est intéressant sa position, parce que c'est un artiste, mais c'est aussi un salarié d'entreprise. Hein. C'est-à-dire, pour gagner de l'argent, il travaille dans une boîte où il s'occupe de la reprographie. Donc il est toujours à cheval sur les deux mondes, si on peut appeler ça deux mondes, et il établit une continuité. Donc lui, sa démarche, c'est rentrer dans une entreprise, de rentrer en contact avec les ouvriers, les salariés, quels qu'ils soient, de leur proposer de faire un pas de côté par rapport à leur environnement de travail, et peut-être en tout cas ici de considérer leur contexte de travail, leurs outils, comme presque une scène sur laquelle ils peuvent vraiment trouver une petite brèche de liberté, et ils leur proposent d'imaginer une position qu'ils ont envie de prendre, un peu comme s'ils réalisaient un fantasme qu'ils avaient depuis longtemps. Donc on a le cas de ces images, et souvent les propositions viennent vraiment des travailleurs, des salariés. Donc forcément, la présence de l'artiste ici, pour répondre à la question qu'on s'est posée sur l'impact de la présence de l'artiste, elle est de faire cette espèce de court-circuit dans une routine de travail et de changer au moins momentanément la perspective sur l'environnement professionnel. Alors là, on voit clairement, très physiquement, hein, en fait, que le fait de se tenir en l'air et d'avoir une vision plongeante sur l'espace de travail change la perception de soi. Camille Richel parlait ce matin des affects, et je pense que cette question des affects dans ses expériences de résidence en entreprise, elle est essentielle. Parce que c'est un endroit de subtilité, l'affect, aussi bien de la part des artistes que de la part des gens qui travaillent en permanence dans l'entreprise. Les affects dans le contact, dans la rencontre, vont être très fluctuants et très complexes et très multiples. C'est-à-dire que je pense que si je me mets à la place de l'artiste, c'est différent, enfin, c'est difficile parce que je ne suis pas l'artiste, mais malgré tout, je peux essayer. Il y a aussi bien le plaisir de cette rencontre avec une personne, un individu, voilà, que l'artiste n'aurait pas rencontré par ailleurs. Une incursion dans une logique de travail, le plaisir aussi d'interagir dans le moment de la prise de la photographie, mais il y a aussi des questionnements par rapport à sa position dans l'entreprise. Je parle du point de vue de l'artiste. Des questionnements par rapport à ce qu'attendent de lui éventuellement les patrons. Donc tout ça, c'est très mélangé. Et pour le salarié, bah, c'est pareil. Ici, par exemple, c'est bah, qu'est-ce que, en même temps, ce plaisir d'avoir ce temps comme ça d'échange original et de prendre une position particulière dans l'équipe de salariés, mais aussi bah, une crainte de d'être trop en décalage ou une crainte des représailles du contremaître, par exemple. Parce que ça pose aussi des questions de hiérarchie, si la direction est OK, si Alain embarque des ouvriers, et eh bien le contremaître ne va pas être content, c'est-à-dire celui qui est à l'intermédiaire, en fait. Hein. Donc ça perturbe quand même beaucoup les relations, la présence de l'artiste. On peut se poser la question aussi de savoir combien de salariés ont pu assister au travail de l'artiste ou au processus de travail. Ça dit aussi beaucoup sur la réussite ou l'échec de la résidence, en fonction de la taille de l'entreprise, évidemment. Si plus possible de salariés sont concernés, vraiment concernés, c'est-à-dire vraiment engagés dans un processus de rencontre, et si on paye leur temps de travail à être avec l'artiste, dans ces cas-là, peut-être que ça aura plus valeur de changement ou ça apportera plus de choses aux salariés que si c'est simplement telle personne choisie. Et encore, tout ça, ça reste vraiment à discuter au cas par cas. Le degré d'ouverture de l'entreprise à la liberté artistique, par exemple, enfin bon, tout un ensemble de critères. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, assez peu de temps, 2 minutes. Moi, je vais passer quand même quelques images, parce que j'en ai pas passé beaucoup. Donc ça, c'est Alain Bernardini donc, qui a réalisé une vidéo avec les ouvriers en les amenant à l'extérieur, ce qui a suscité d'ailleurs la colère du contremaître. Il leur a simplement dit de rien faire, il a fait une vidéo à partir de ça. Donc ça, c'est l'installation qu'il a réalisée dans le couvent des Jacobins, dans l'exposition, avec une machine qu'il a co-créée avec des ouvriers et un ingénieur, à partir des outils qu'il y avait sur place, et les photos qu'on voit en bas. Je vais montrer aussi peut-être Damien Béguet, qui a réalisé dans une entreprise qui fabrique des crêpes, une crêpe prototype, une crêpe glacée en fait, qu'il a baptisée We Are. Donc il a fait cette résidence dans l'entreprise qui fait les crêpes Waouh, et finalement il a quelque part parodié ou il s'est infiltré vraiment dans le fonctionnement du mécénat de cette biennale, puisque Crêpes Waouh, c'est une production liée à l'ORAC, donc au mécène, et il a joué complètement toutes les étapes de production de cette crêpe qui était distribuée lors de la biennale, un peu comme un cadeau empoisonné, puisqu'on distribuait à l'entrée que c'était gelé et qu'on était obligé de tenir cette crêpe tout le temps de la visite. Elle se dégelait au bout d'une heure et demie, donc à peu près 1h10, à peu près le temps de visite, donc voilà, c'était une manière de se rappeler vraiment aux spectateurs et de parasiter un peu la visite de la biennale. Et je vais vous montrer un exemple que je trouve vraiment intéressant. Je suis désolée, je ne peux pas tout vous montrer, mais c'est un petit peu court. On pourra y revenir à l'occasion pendant les questions. De Claudia Sbriosi, parce que sa démarche, elle est vraiment très, très... elle a créé beaucoup de friction et elle est très intéressante dans ce qu'elle a mis en perspective sur la relation entre le patron, l'artiste et les salariés. En fait, elle a été présentée par le patron, qui est un patron assez paternaliste, une entreprise de 80 salariés qui fabrique des sauces alimentaires. Et en fait, elle a été présentée aux salariés dans la même réunion que la présentation de la mauvaise nouvelle qu'ils n'auraient pas leur prime pour Noël. Donc en fait, voilà, vous n'aurez pas votre prime pour Noël, mais j'invite une artiste avec du mécénat, voilà. Donc, évidemment, il n'y a pas de rapport de mesure, parce que ce n'est pas le même coût, une prime de Noël pour 80 salariés et 6 000 euros de mécénat. Mais malgré tout, c'était tellement, tellement maladroit que Claudia Sbriosi a dû, pendant toute sa résidence, travailler à partir de ça. Et ça s'est appelé, en fait, elle a fait une œuvre qui est avec 3 vidéos et une... Donc là, on voit les vidéos. Et vous voyez la prime d'intéressement à l'art, c'est-à-dire qu'à la fin de sa résidence, elle a donné, lors d'un petit événement, une prime d'intéressement à l'art aux salariés de l'entreprise qui ont avec ça payé un restaurant pour tout le monde. Et en fait, dans les vidéos qu'elle a réalisées, elle met vraiment le patron de l'entreprise, elle le pousse dans ses retranchements en instillant vraiment une forme de parodie du patron et le patron lui-même a laissé faire. En fait, hein. Donc c'était vraiment très intéressant de voir que cette fiction-là, elle pouvait avoir après une place devant le public. Il se trouve qu'après, le patron a voulu acheter l'œuvre, donc je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'était vraiment par intérêt pour le travail de Claudia ou simplement pour maîtriser la visibilité de cette œuvre-là, je ne sais pas. Mais en tout cas, je crois que ça ne s'est pas fait. Est-ce que ça va, Nicolas, ou j'ai encore une minute, on s'arrête là ? Une minute ? Ok. Deux minutes. Oui, ben voilà, enfin, je dois dire... Peut-être pour conclure que j'ai passé 2 ans donc, sur cette biennale à me sentir dans l'inconfort permanent par rapport à toutes ces questions. Et ça, c'est important, je le sens encore aujourd'hui. Et je trouve que cet inconfort est très intéressant, justement, parce que je crois qu'on ne peut pas être dans le confort quand on travaille à la croisée entre entre l'art qui devrait être le lieu de l'émancipation et de l'autre côté le travail qui devrait être le lieu de l'aliénation, si on grossit les traits. Si on reprend Marx, en fait, Marx, il considérait toujours l'art dans une visée sociale, en fait, hein, l'art comme une activité sociale. Et donc, face au système qui pourrait être le lieu de l'émancipation, serait peut-être la forme de production qui serait à atteindre dans un monde où le capitalisme aurait disparu, aurait été aboli. Mais en fait, on se rend bien compte que si on parle d'émancipation et d'aliénation, qui sont deux mots qui s'opposent, en fait, c'est plutôt un entrelacement entre les deux qui est la réalité. Je pense qu'un artiste, même s'il travaille pour un centre d'art, pour un lieu comme ici, ou pour un collectionneur, il est aussi pris par des contraintes, il y a aussi une forme d'aliénation, et donc tout ça, c'est pas si simple. Et malgré tout, il faut toujours garder en tête, je pense... cette idée-là, cette visée d'émancipation, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus un gros mot. J'ai l'impression que ça l'était en 2000, et peut-être ça, c'est une chose qui a changé. Cette question d'aliénation et d'émancipation, ces deux mots, j'ai l'impression qu'on peut à nouveau employer différemment, évidemment, hein, mais voilà, qui peuvent être quand même des points de résonance pour penser ce type d'expérience.
Pas de temps. Vous m'entendez, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Raphaël, pour ce voyage sur le temporel dans les résidences sources. On va enchaîner avec le travail de Sylvain Romer et Maxime Rigaud. Juste peut-être deux petits mots pour vous présenter très rapidement. Sylvain Romer est architecte et artiste. Son travail se déploie de façon transdisciplinaire à la croisée des arts visuels et de l'architecture. Tu accordes beaucoup d'importance à la question de l'accueil, de la cohabitation, de l'habitation. Et tout ça dans un geste de relation que j'ai pu constater de visu. Dans ta bio, il est marqué dans des joyeuses collaborations, je pourrais témoigner aussi. Et Maxime Rigaud, Maxime, toi tu es photographe, plus rarement vidéaste, mais quelquefois quand même. Tu déploies ton travail à partir de la notion de territoire, auquel tu accordes beaucoup d'importance, que le territoire soit géographique, symbolique, imaginaire, mais plus souvent géographique. Et tous les deux, en fait, vous avez, sur la proposition de travail et culture, déployé une résidence artistique dans un lieu industriel, dans une entreprise industrielle de fabrication de boîtes de vitesse, Stellantis, Tri-Saint-Léger, à l'ancienne, où il y a, je crois, 1500 salariés à peu près. Monsieur le Président, vous allez nous en faire le récit. Ce qui va être intéressant, ça va être justement, Jean-Pierre, tu en parlais un petit peu, de repérer ce qui rapproche et ce qui distingue 2008 de 2023, ce qui rapproche et ce qui distingue les expériences que Raphaël a initié à Rennes dans le cadre de la biennale de la croisée avec les résidences d'artistes sources. Et est-ce que vous pouvoir nous raconter, Maxime et Sylvain, de cette résidence à Valenciennes, à Trissalégé, résidence qui touche quasiment à sa fin. On essaye donc de refaire le récit.
Bonjour. Merci pour cette invitation à partager notre aventure à Stellantis. Peut-être pour donner quelques éléments de contexte pour commencer. Donc Stellantis, c'est une usine qui est basée à Valenciennes, mais c'est un groupe international. Il y a une pléthore d'usines à travers le monde qui produisent des éléments de voitures. En l'occurrence, à Valenciennes, c'est un site de production de boîtes de vitesse qui implique 1500 ouvriers et ouvrières, 9% de femmes dans la production. C'est une usine qui existe depuis 40 ans, qui produit des boîtes de vitesse par million, avec des chaînes de production à la fois ancestrales, qui existent encore, des modèles très anciens, qui ont 35 ans, et des modèles très récents, comme les électriques notamment en ce moment. Donc c'est vraiment un espace dans lequel se rencontrent différentes époques, différentes manières de travailler. Et donc nous, on a eu cette proposition de venir travailler sur ce territoire, et on s'est intéressé beaucoup à cette idée d'organisation, d'interroger qu'est-ce que ça veut dire travailler dans une usine comme celle-là aujourd'hui, et de se poser la question des perspectives de ce travail ouvrier, en impliquant au maximum les principaux intéressés et les principales intéressées, donc les ouvriers, les ouvrières, donc essayer de trouver à la fois une place dans ce territoire et d'impliquer de la rencontre, de l'échange. Voilà, donc ça c'est peut-être comme une petite introduction, est-ce que tu veux?
Oui, donc on a aussi de notre expérience d'avant, on était très intéressés de l'espace de l'usine parce que c'était plutôt un espace étrange pour nous. On ne connaissait pas, on était très curieux à vivre cet espace, à habiter cet espace. Et donc on était assez déçus quand on y arrivait d'avoir des tours guidées super dirigées et limitées en fait. C'était toujours une petite demi-heure. Et après c'était fini, on devait aller à la maison et revenir avec des idées. Et donc, là, vous voyez quelques photos de cette usine, qui est quand même assez fascinant comme territoire, certainement pour nous qui n'ont jamais fréquenté cet espace. Et pour nous, c'était toujours des boîtes anonymes dans le paysage. Et donc, pour une fois, on avait la possibilité d'entrer dedans. Et donc, très tôt, on a dit... On veut passer du temps ici, c'est la seule précondition en fait pour pouvoir faire un projet. Donc on voulait habiter cette usine et on avait demandé est-ce qu'on ne pouvait pas travailler aux lignes à côté des autres opérateurs et la réponse était tout de suite non, impossible.
Donc on a fait un certain nombre de propositions qui pouvaient être des pistes d'entrée dans cette usine, d'essayer de trouver une manière de travailler, et on s'est rendu compte que très régulièrement nos propositions étaient recalées par la direction. Donc on a commencé à essayer de comprendre en fait quel pouvait être l'imaginaire du point de vue de la direction de ce que ça peut être une résidence en entreprise, de leur point de vue, pourquoi ils avaient accepté. Et on s'est rendu compte que, en fait, finalement, la directrice de la communication nous a dit très directement « Ah ben nous, on pensait que vous alliez venir et puis faire quelques croquis et puis retourner dans votre atelier, fabriquer une sculpture et venir nous la livrer. » Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait comme un malentendu et que c'est pas comme ça qu'on avait l'intention de procéder, mais que nous, on avait besoin vraiment d'habiter cet espace et d'entrer en relation avec les ouvriers, les ouvrières, de pouvoir leur parler, de pouvoir... les observer, de pouvoir déambuler dans cette usine. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on faisait vraiment face à un espace particulièrement standardisé, avec des protocoles dans lesquels on ne fait pas ce qu'on veut, et ça, on l'a rappelé constamment, vous ne faites pas ce que vous voulez. Donc on était un peu sur un territoire où on marchait sur des œufs, il a fallu vraiment du temps pour faire accepter des petites idées, et de ne pas vouloir aller trop vite, justement, dans ce processus. Et donc, on en est assez rapidement arrivé sur une idée, enfin, assez rapidement, tout est relatif. En tout cas, on est arrivé à un endroit où on s'est dit, peut-être que la première chose à faire, c'est déjà d'habiter cette usine. On a mis en place un atelier de production dans l'usine, qu'on a appelé l'UPI, donc l'unité de production d'images, qui avait pour vocation de venir juste nous rendre habitants ou résidents de cette usine, en tout cas travailleurs aussi. Donc, c'est comme si on faisait des journées de 8 heures, donc pendant 12 jours, on a commencé comme ça, avec cette idée de mettre en place un processus de production et de regarder autour de nous ce qui se passait et d'essayer de s'inspirer de ce qu'on voyait autour de nous, donc les chaînes d'à côté, la manière dont travaillaient les ouvriers à côté de nous, pour essayer de produire des œuvres. Donc, c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait, de réfléchir au point de rencontre possible entre la production artistique et la production de boîtes de vitesse de voiture.
Oui, et aussi de performer tout à fait leurs règles, ou les règles qu'ils nous donnaient. Donc, si on ne peut pas travailler à votre ligne, on va faire notre propre ligne, mais on va quand même faire ce que vous voulez et essayer de faire comme vous. Ça veut dire de faire des petites zones. Donc faire une ligne de production d'abord, des zones qui ont des tâches séparées. Par exemple, c'était assez difficile dès le début de vraiment suivre ce rythme. Ok, pour découper les images, il faut le faire sur ce table-là. Puis sélectionner les images, on ne fait pas là, mais en fait sur ce table-là. Donc on essayait vraiment de suivre un peu les protocoles de l'usine et aussi les évaluations de l'usine, parce que ça m'a marqué beaucoup que chaque chose qu'ils font est notée quelque part, est mesurée, et même les contrôles des opérateurs sont contrôlés par encore une autre personne. Et donc on essayait de s'autorouer, de se contrôler nous-mêmes aussi. Donc c'était un peu une performance absurde qui était une expérience pour nous, pour apprendre à connaître l'usine et ce que c'est pour habiter cet espace. Oui, donc c'est le plus important, et c'est aussi quelque chose qu'on répétait, et je pense que cette répétition est importante aussi. On le faisait 2 jours, donc on y est allé 3 fois pour 4 jours, et le fait que tu répètes ça te change aussi toi-même. Au début tu questionnes tout, et à la fin tu deviens dans un rythme que tu t'adaptes, et ouais, c'était intéressant aussi, ouais.
Donc finalement ce processus il nous a permis de, puisqu'on ne pouvait pas aller vers les ouvriers, puisque apparemment les ouvriers n'avaient pas du tout de temps à nous accorder, finalement comme on était positionné sur un espace qui se trouve juste à côté des toilettes, les ouvriers finalement passaient constamment devant nous, et évidemment ça a attisé la curiosité, donc ils nous demandaient mais qu'est-ce que vous produisez, et donc voilà, on leur disait qu'on allait faire un nouveau module d'un espace de production dans l'usine, de production d'images. Et donc on avait quand même réussi à négocier cette petite marge de manœuvre qui était de, pendant 1 heure tous les jours, on pouvait aller faire des images accompagnées d'un directeur de la communication. Et ensuite on faisait ce processus pendant 7 heures de sélection, impression, encadrement. Il y avait comme ça des tentatives d'accrochage qui commençaient à exister dans l'usine. Et donc au fur et à mesure, les ouvriers venaient nous voir pour nous demander « Tiens, quand est-ce que vous venez dans le coin de l'usine où moi je travaille ?» Et donc on a commencé à imprimer les images en 10-15 aussi, on leur offrait. Et on leur offrait en échange d'une question à laquelle ils étaient invités à répondre, une question qu'on voulait adresser, à laquelle on voulait leur adresser, ou une question qu'on se posait sur l'usine. Et donc on a commencé à disséminer des questions qui nous revenaient parfois le lendemain. Il y avait eu des concertations entre les équipes, venez nous voir, enfin, on a repensé à ça. Et donc on a récolté comme ça une somme de matière. Alors pour donner des idées de questions, on avait par exemple des questions comme des questions qui ne doivent pas trop donner l'impression d'aller toucher des points sensibles, parce qu'il fallait qu'elles soient entendables par des membres de la direction, mais il fallait quand même qu'elles racontent des choses. Donc on posait des questions parfois un peu bêtes, si l'usine était une couleur ou un animal, lesquels seraient-ils, que restera-t-il de vous dans l'usine une fois que vous l'aurez quitté? Que restera-t-il de l'usine en vous quand vous l'aurez quitté? Et donc on récupérait de la matière qui nous a permis de fabriquer un livre.
Peut-être encore, parce que je vois les photos, vous voyez un peu des maquettes en carton, et au début on croyait que c'était un peu bizarre ce qu'on faisait dans cette usine, mais d'après les salariés, c'était pas du tout bizarre, parce qu'en fait, il y a pas longtemps qu'ils faisaient eux-mêmes aussi leur ligne de production en carton avant de le réaliser en vrai. Donc cette idée d'une maquette de ligne de production n'était pas très bizarre et c'était intéressant parce qu'on leur demandait aussi comment peut-on optimiser cette ligne de production. Donc il y avait un vrai échange et c'était pas du tout bizarre.
Et donc, on est parti, enfin, on a eu aussi à ce moment-là, à partir de cette expérience-là, plusieurs pistes et plusieurs idées, et ça a décanté, ça a pris du temps. Mais à un moment, on est parti sur l'idée de, bah, d'imaginer un espace à, en fait, on voulait interroger la question de comment on habite une usine, est-ce que les gens qui travaillent dans cette usine l'habitent, est-ce qu'ils ne font qu'y passer ? Tout ça dans une logique avec cette idée de management où en fait, notamment dans l'usine de l'État ou l'usine BSA, il y a ce qu'on appelle des logiques de production, des standards, notamment les 5 S qui sont hérités du Japon et qui sont des manières de penser le travail et de le rationaliser, de le performer. En fait, tout est pensé, a priori pensé, c'est-à-dire la place de chaque outil selon la fréquence de l'usage. L'impossibilité de venir personnaliser les espaces de production parce que à la fin des 8 heures, il y a un autre ouvrier, une autre ouvrière qui va utiliser l'espace. Donc il y a comme une sorte de transformation de l'usine, d'anonymisation de l'usine. Et donc on s'est interrogé sur la possibilité d'habiter cette usine et on s'est dit que ça pouvait être intéressant de penser à un espace, de fabriquer un espace.
Oui, je pense que la chose qui nous a. Ce qui nous a frappé le plus dans cette usine, c'est qu'en théorie, tout est réglé, tout est standardisé. Et donc, dès le début, la direction nous disait que ce n'est pas du tout possible d'échanger, il n'y a pas de temps et tout. Par contre, quand tu es dans cette usine, il y a quand même des moments d'échange, il y a quand même une sorte il y a une possibilité de rencontre, une possibilité de s'approprier l'espace d'une manière ou d'une autre. Et c'était ça ce qui nous intéressait pour élaborer plus et pour aller chercher dans l'usine. Donc on se posait la question comment les gens font maison ici ou comment les gens habitent cet espace, quelles sont les traces humaines, quelles sont les mémoires et tout. Et donc c'était, oui, ça nous a inspiré d'abord faire une série de livres artistes. Vous voyez le premier. Qui s'appelle Intérieur Nuit et qui tire une image qui présente cet espace infini où il y a des figures des personnages d'un film ou d'une histoire.
En fait, ouais. Il y avait cette idée donc, à la fois de fabriquer un espace dans lequel il y a peut-être l'idée d'une mémoire en cours, en train de s'écrire de cette usine, avec des traces, avec des objets, et on s'est dit qu'une collection de livres, ça pouvait être. Point de départ. En effet, ça c'est le résultat de notre première découverte de l'usine. Pendant ces 12 premiers jours, on a produit des images, on a regardé 24-25 et qui sont devenus ce premier objet comme une espèce de postulat de voilà, où est-ce qu'on se trouve, qu'est-ce qui nous attire en termes de forme, de rapport du corps à la machine, de rapport de teinte. Voilà. Donc c'est un travail qui a été fait au flash qui vient plonger l'usine dans l'obscurité. Donc, dans la nuit, et comme dans des figures en clair-obscur qui nous apparaissent, on a comme ça des fragments de cette usine. Et ensuite, on a.
Ensuite, il y avait aussi énormément de conversations qu'on a eues et qui nous donnaient des phrases superbes, en fait, et qui fait une boîte, livre.
Donc, ce livre, en effet, c'est une compilation de phrases qu'on a entendues et qu'on a essayé d'agencer d'une manière à formuler une sorte de voix collective, à la fois disparate, mais une voix qui raconte des choses et qui parle de certains enjeux de cette usine, du rapport à la production, du rapport à l'animation, du rapport à l'habitude, du rapport à la routine, du rapport à la chaîne. Voilà. On a donc un troisième livre qui est un livre sur les mains. Les mains des travailleurs, c'est un peu un hommage aux mains des travailleurs et des travailleuses. En fait, ce qui était intéressant, c'était d'essayer de se dire comment on peut utiliser toutes les contraintes que nous impose l'usine comme des moteurs de production. Donc en fait, si on ne peut pas aller voir les ouvriers, comment on fait pour produire des images du travail. Ça, c'était vraiment un sujet aussi de comment on représente le travail. Et en fait, on a imaginé cette idée d'aller photographier les mains juste à la sortie de la douche, au moment où les ouvriers quittent l'usine et vont sur le parking. Donc, en fait, on a très peu de temps, mais c'est un temps qu'ils peuvent nous accorder, une minute. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment le travail s'est inscrit dans vos mains? Est-ce que les mains peuvent être considérées comme une archive du travail? Donc, en fait, c'est un travail qui va chercher vraiment dans les mains comme un paysage qui est marqué. Donc, parfois, les gens vont montrer un geste qui était un geste répété toute la journée, ou parfois une trace, ou quelque chose. C'est un hommage aux mains. Et à la fois sur la trace, on a ce quatrième livre qui s'intitule Memento, qui est un livre sur les petites traces qui ont échappé à la vague blanche. Je te laisse présenter la vague blanche.
Oui, la vague blanche, c'est le mot qu'ils utilisent pour décrire le phénomène de repeindre tout l'usine dans des couleurs standardisées qui sont utilisées partout dans le monde et qui représentent en fait l'industrie néolibérale et le fait que l'usine est toujours actuelle et que en fait, la vague blanche efface tout, toutes les machines reçoivent le couleur blanc et toutes les traces sont effacées. Et donc on essayait de trouver quand même des petites traces humaines qui restaient là. Et c'était des petits secrets parce que les salariés avaient parfois la peine à nous raconter parce qu'ils ne voulaient pas que la direction de communication le savait. Et souvent, ils se mémorisaient aussi une petite tâche et on allait le chercher et c'était déjà effacé.
Donc, en effet, ce qui nous importait, c'est de voir comment dans un espace hyper standardisé et a priori de plus en plus froid, quels sont les endroits où on continue à sentir l'humain, la présence de l'humain, comment des espaces peuvent être habités même avec des éléments a priori futiles, mais qui tout d'un coup, mis les uns à côté des autres, commencent à former un début de petite mythologie. Donc c'est des graffitis, c'est des petites inscriptions, c'est un ouvrier qui a fabriqué une girouette avec une bouteille en plastique et qui est allé fixer tellement haut que la vague blanche ne peut la pas atteindre. Et donc c'est cette petite collection de petites choses insignifiantes a priori, mais qui tout d'un coup existent avec une impression réseau en métallique gold sur papier noir, qui vient donner comme ça un écrin ou une aura presque à des petites traces.
Et en fait, vous voyez une photo d'une expo qu'on a organisée dans le pavillon de la comité du syndicat aussi, dans l'usine même, parce que on a eu vraiment la volonté de s'adresser aux salariés, donc pas vraiment de faire un projet d'art et de présenter dans un musée, mais on voulait vraiment qu'eux étaient aussi notre public principal. Et donc, on a présenté les premiers résultats de notre recherche et aussi l'idée, en fait, de continuer cette recherche dans l'usine même avec la construction d'une, ce qu'on appelait, machine à habiter. Donc, on posait la question s'ils étaient partante à réaliser ça avec nous et quelle forme que ça pourra prendre. Donc c'était en même temps une exposition et en même temps une invitation à penser avec nous sur la suite du projet. Donc il y avait une série de maquettes, il y avait aussi des affiches avec plusieurs images de référence qui nous servaient à demander à eux si vous vous imaginez une machine à habiter comme un espace convivial dans l'usine même, c'est quel genre d'intérieur, par exemple.
Et donc, on trouvait intéressant de proposer un espace qui se trouve dans l'usine et qui peut-être aurait une qualité que l'usine n'a pas, qui est un espace insonorisé. En fait, le bruit est permanent dans l'usine et donc tout le monde a des boules qui est, donc ça empêche la communication. Et c'est aussi vachement fatigant. Et donc, même dans les salles de pause, on entend le bruit parce qu'en fait, c'est juste des plaques de verre qui sont même pas, qui font pas du plafond au sol, du sol au plafond. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on peut imaginer un petit module? On a pensé à l'idée de la chapelle, comme ça, un petit espace dans lequel on puisse venir ne serait-ce que 10 minutes, éventuellement ne rien faire ou consulter des livres, échapper au travail, se cacher. et comment on va à la fois proposer un espace différent en même temps qu'il s'insère dans l'usine. On a pensé à cette idée que dans l'usine, tout est récupéré totalement, enfin, constamment, c'est-à-dire les machines qui ne servent plus, elles sont stockées à un endroit, mais un jour elles redeviendront, elles seront réagencées pour redevenir d'autres machines. Et on s'est inscrit dans ce processus de production où on a été récupéré des éléments de machines anciennes, notamment deux machines, deux usineuses Peter, qui datent des années 2000, et qu'on a réinvesti, à partir desquelles on a fabriqué une nouvelle architecture.
Qui devrait devenir un espace avec une autre régime où il y a la liberté, où il y a la possibilité d'approprier et de faire une sorte de mémoire de l'usine. Et donc la machine même est aussi une mémoire de l'usine parce que c'est composé de matériaux d'anciennes machines. Voilà quelques images du dessin. C'était aussi l'idée de que cette machine, donc c'est une chambre, mais à l'extérieur il y a aussi des tables de travail pour continuer cet échange sur c'est quoi la mémoire de l'usine, comment est-ce que vous habitez cet espace.
Et donc dans cette idée de, à la fois, encore une fois, de ne pas venir prendre quelque chose dans l'usine et de venir l'exposer ailleurs, on est vraiment dans l'idée que c'est un espace qui se trouve dans l'usine, c'est un espace d'exposition pour ce qui est de l'intérieur. L'exposition de ces livres qui vont, là c'est vraiment le début d'une collection, mais à l'extérieur il y aurait une machine à café, donc on va bientôt l'installer normalement. Il y aurait une machine à café, donc l'idée c'est de voir comment cette machine elle peut être appropriée par les ouvriers, les ouvrières. En tout cas c'est une question, on ne sait pas du tout comment ça va fonctionner ou dysfonctionner, c'est une expérience en cours. Mais donc on a cette idée qu'il y a un mur à l'extérieur qui est un espace de travail, un peu work in progress. On va faire régulièrement des activations, c'est-à-dire on va faire un petit workshop pendant 2 jours dans l'usine. Parfois on invitera d'autres gens, parfois on travaillera seul sur un sujet, sur une proposition qui va impliquer des salariés. Et il va peut-être se passer des choses sur ce mur, des choses en mouvement, des choses à travailler, work in progress. Et si à la fin on a une matière qui est satisfaisante pour devenir un petit objet livre d'artiste, voilà, ça passera à l'intérieur dans l'espace un peu plus mémorable, archivistique, je sais pas. Donc voilà, c'est un peu l'architecture en deux parties.
Alors il y a 4 mois, on a pu installer la machine dans l'usine même, mais on n'a pas encore l'inauguré. Donc les prochains mois, oui, on aimerait l'inviter, de l'introduire dans la haute production.
Alors, je préférerais que ce soit pas Jean-Pierre qui commence la question, parce qu'il se trouve que ce projet, je le connais bien. Moi, je viens d'être exposé, donc je manque un peu de distance critique par rapport à ce travail. Ce que je peux peut-être dire en fait, là, en écoutant et à la fois le récit de Raphaël, celui de Cyril et de Maxime, c'est de poser la question de ce qui change et de ce qui ne change pas sur le cas des artistes en entreprise entre 2008 et 2023. Ce qui ne change pas, c'est le propos. Que tu tenais à Raphaël à la fin, c'est toujours aussi difficile. C'est toujours aussi difficile, c'est toujours aussi compliqué. On l'entend bien dans votre récit. Donc, ben voilà, on a raison d'une entreprise, on ne s'attendait pas à ça. On avait un projet, ben finalement, ce n'est pas celui-là qui va être déployé parce que ben, le réel nous tord un peu le bras. Quoi. Ben, voilà, l'entreprise, à un moment donné, d'ailleurs, si tu dis, on était dans le rythme de l'entreprise, quoi, tellement c'était massif. Donc c'est toujours aussi compliqué par rapport aux attentes des directions, et parfois les directions n'ont pas vraiment d'attentes, ou alors en tout cas elles ne sont pas visibles ou elles ne sont pas lisibles. C'est toujours compliqué par rapport aux interdits, c'est un autre travail de production industrielle. Tu le disais Maxime, il y a énormément d'interdits, d'ailleurs c'est comme ça que vous êtes accueillis. On n'a pas le droit de parler, alors non pas aux ouvriers mais aux opérateurs, là aussi on en parlera sur la brigade libérale, capitaliste, qui dit plus monde ouvrier, qui dit opérateur ou ouvrier par exemple, mais ça c'était quelque chose qui a été qui a été mis en avant, on dit plus chef de montage en 10 lignes, voilà, il y a plein de choses qui sont comme ça.
Ce qui ne change pas,
mais en positif, c'est qu'entre le prescrit et le réel, il y a toujours un écart important. Entre ce qui est prescrit par l'entreprise, les interdits, et ce qui se passe réellement dans une résidence, ben, il y a un écart parfois de 1 à 100 en fait, parce que sinon vous n'auriez pas réalisé à la fois un truc complètement fou qui est une ligne de production d'image dans une usine qui fabrique des boîtes de vitesse. Moi-même, en fait, je ne pensais pas que ça allait passer. Hein. Je ne pensais pas que la direction de l'entreprise allait dire « Youpi, on y va, on fait rentrer l'art dans l'entreprise ». Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est qu'il y a eu de la compréhension, il y a eu des choses qui se sont passées entre le prescrit et le réel. Et ce qui ne change pas, c'est aussi, alors là, je me mets un peu du côté de travail culture puis de art to be, parce que c'est la notion de tiers, en fait. De tiers qui vient se mettre, pas s'interposer, mais faciliter, travailler entre les artistes et l'entreprise. Et je pense que le travail culture, pour le coup, est un tiers qui permet en fait de travailler cette relation avec l'entreprise, parce que c'est une entreprise qu'on connaît, comme ma collègue Sukran a déjà déployé des projets, donc il y avait des contacts, donc même s'ils étaient anciens, ils ont été réactivés. Et donc je pense que c'est important de rappeler qu'il y a une histoire en fait, avec des territoires, avec des entreprises et avec des gens en fait. Hein. La fameuse directive de la communication, voilà, on la connaissait avant, et puis. Elle a une qualité qui est une forme de plasticité en fait dans ses modes de décision. Elle a permis beaucoup de choses qui n'étaient pas possibles au départ, qui n'étaient pas permis. Et je pense que voilà, par rapport à l'association de Raphaël, c'était pareil. Il y avait ce tiers-là, il est très important parce que les artistes tout seuls face à une entreprise, face à un monde industriel comme ça, je ne sais pas, ça ne donnerait peut-être pas la même chose. Le chemin, ce n'est pas tout à fait le même. Voilà ce que je peux dire de ce qui change ou de ce qui ne change pas, de ce que j'ai entendu du travail qui a été présenté par Raphaël et de celui de Maxime et de Cille. Alors j'ai peu de questions parce que en même temps je connais bien le boulot, mais peut-être Jean-Pierre, toi tu as des interrogations sur moi.
Des convictions, je pense que ce qui est intéressant en tout cas dans votre affaire, c'est que vous auriez pu vous désespérer, parce que c'était dur au départ. Ça l'est encore d'ailleurs, je pense. Mais ça n'est plus de la même manière. Donc je pense que la première idée qu'il faut avoir, c'est que de toute façon, penser que la liberté de l'art est donnée d'emblée, c'est faux, c'est complètement faux. Et que la liberté, c'est toujours de conquête. Même si, vous pouvez imaginer un patron qui, pour vous, enfin, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Par contre, c'est que tout le monde, quelque part, et peut-être de plus en plus, sent qu'il a une force, je ne sais pas comment dire ça, il sent qu'il y a une nécessité de travailler être sensible. Bon, ça a beaucoup progressé dans son entreprise. Ça. On peut être très bien, d'ailleurs, récupérer, c'est souvent récupéré pour des fins de production. Mais beaucoup d'entreprises, pour gérer le travail, ont bien senti qu'on ne peut pas uniquement faire les choses de façon autoritaire, d'emblée, enfin, violente. Donc, il y a là des choses qui, pour ce qui concerne enfin, la démarche artistique, c'est aller évidemment dans une volonté de s'affronter au réel de l'entreprise. Le vrai enjeu, c'est de rencontrer les salariés, c'est ça. Et beaucoup de grands fonds empêchent de travailler les salariés. Il y a à la fois les patrons, mais il peut y avoir aussi, je veux revenir un peu sur ce que tu avais dit, les aveugles, il peut y avoir aussi les structures représentant du personnel. Il y a des enjeux dans cette affaire, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des. Il y a tout ce qu'on peut imaginer, parce que là, ouvre sur l'inconnu, quoi. Ouvre sur l'inconnu, on se demande comment ça va se gérer, tout ça. On ne peut pas dire que, en fin de compte, il y a aussi une curiosité, mais elle est retenue. Je suis assez sensible, j'ai reçu un courriel d'un ami qui me dit qu'en France, par exemple, les salariés qui sont en vacances, et la grosse majorité d'entre eux vont visiter des entreprises pour voir comment on travaille dedans. C'est la première visite de site touristique, c'est l'entreprise. On va visiter l'entreprise qui fabrique des biscuits, qui fabrique l'électricité, qui fabrique. Donc ça prouve qu'il y a une nécessité. Et là, enfin bon, je dis pas que c'est de là, ça, c'est pas ça la question, mais il y a une nécessité sur le travail. Voilà, je voulais dire ça. Donc ça, c'est la première, peut-être la première. Et donc, quand j'avais répondu à Raphaël, parce que tu es précis, j'avais dit. Ça veut dire, mais tu peux rien faire de toute façon sans l'autorisation du patron, de toute façon, ça c'est obligé. Parce que personne ne peut dire, dans l'entreprise, faire des choses qui ne peuvent être aussi opposées. Donc il faut là. Et c'est très important cette question, parce que c'est là que. Alors, la chance qu'il y avait avec la biennale, c'est qu'effectivement, les entreprises voulaient s'engager et les artistes choisissaient un peu leur entreprise. Alors c'était une chance quelque part, parce que effectivement, ça déminait un certain nombre de choses au départ, mais tout n'était pas réglé pour autant. L'histoire l'a montré. Mais ça permettait de lancer des. On avait un terrain propice qui se dégageait. Et en même temps, ça n'a pas été simple pour autant du tout. Hein, voilà. Donc je voulais dire ça. Puis, peut-être, je suis un peu confus comme toujours, c'est normal, quand on connaît. Vraiment, l'idée est celle-là. Enfin, bon, peut-être que ça suffit pour l'instant, je reviendrai sur d'autres choses. Et j'ai été surprise. Alors, c'est Victor Fratin qui, je ne sais pas s'il est toujours là, qui, sur son expérience dangereuse, là. Alors, je disais en présentant à Raphaël que pendant qu'il présente, il ne faut surtout pas dire ça, parce que vous ne ferez plus de résidence en entreprise. Hein. Parce qu'il y a toujours ce danger. C'est parce que comment sur quel pas se place le. Oui, ça je vois, je reviens là-dessus. Les obstacles arrivent, ils arrivent par par les ressources humaines. La direction des ressources humaines qui sont plus souvent très réticentes, mais pas toujours. Pas toujours. Ça vient par la communication aussi. L'image qu'on fait de l'entreprise. Puis la troisième chose auquel on ne s'entend pas, mais qui existe, c'est la sécurité. La sécurité, c'est quand même quelque chose d'important. On ne peut pas dire que la sécurité ne soit pas importante. Mais il faut détourner. Je parle juste d'une autre résidence d'entreprise que je connais, qui était à Grenoble, où il y a un photographe qui a fait un travail de résidence assez long, enfin, compte plusieurs mois. Et après, à la fois de photos, de vidéos, et mêlées avec un chercheur qui s'appelle Yves Flo. Donc on avait fait tout ce travail et il s'est présenté. Et là, l'entreprise a accepté toutes les photos sauf une. Et qui sait qui a empêché ces photos? C'est pas la direction des ressources humaines, c'est pas la communication, c'est la sécurité. Parce qu'il a exposé une photo d'un salarié qui faisait une faute de sécurité. Et de fait, vous ne pouvez pas le savoir, et un mois avant, un autre salarié qui avait fait cette même faute avait eu un accident. Donc ça faisait un faute. Il n'y a pas eu conflit parce que le photographe était un petit peu intelligent. Et il lui a dit, mais justement, c'est bien justement, on va profiter de cette photo pour discuter, pour faire venir le débat, pourquoi ce salarié fait ce geste comme ça. C'est une question, c'est pas un problème. Donc il y a eu un débat auquel j'ai assisté, qui était extrêmement riche, qui a dépassé, qui est venu sur le geste de travail. On en a pas parlé ce matin, mais ça a été un peu évoqué, sur le travail prescrit, comment les salariés inventent des choses dans le travail, comment ils dépassent la prescription. Et ça leur permet aussi de comprendre et de le rechercher, non seulement de comprendre, mais de le rechercher. Je suis un peu long, mais voilà, j'arrête.
Nous aussi, on a été censurés. Il y avait deux phrases qui n'étaient pas acceptées, à être accrochées dans l'expo. Et une de ces deux phrases était « j'ai peur ». Donc, parce que beaucoup de salariés avaient peur pour la future de l'usine et ouais. Ils ne voulaient pas que c'était discuté. L'autre phrase, je ne me rappelle plus. Oui.
Oui. Par rapport à cette premier temps d'expo dans l'usine, on avait ces grandes images que vous avez vues un petit peu plus loin. On avait vu quelques phrases préfigurant le livre qui allait suivre. Et il y avait une phrase qui était intéressante, c'était un ouvrier qui nous avait dit qu'il était allé demander au patron l'autorisation pour pouvoir porter la tenue d'image, le bleu de travail de PSA, en dehors de l'usine. Et on avait lu cette phrase. Et en fait, ça c'était encore un moment, donc il avait même fallu quelques mois. Alors, c'était encore un moment où les syndicats étaient un peu frileux, ils ne voulaient pas trop nous parler. Pourquoi? Parce qu'on était arrivé par la porte d'entrée de la direction et que nous, on n'avait qu'une envie, c'était de leur parler, mais sauf que ça a pris du temps parce qu'on était du mauvais côté. Et il s'avère qu'on a fait cette expo dans le local des syndicats, donc clairement, ils ne pouvaient plus nous éviter. On était là tout le temps. Donc ils passaient devant nous, ils ne nous voyaient pas. Et à un moment donné, on a pris un peu entre quatre yeux une syndicaliste en disant, mais est-ce qu'on peut discuter en fait du travail, de ce qu'on est en train de faire? On a envie d'avoir votre point de vue, votre avis et tout ça.
Et cette personne nous dit, mais en fait, non, moi, ça ne m'intéresse pas trop ce que vous faites, notamment les phrases là. Et je dis, mais quelles phrases? Et donc cette personne me dit, bah, il y a des phrases là, moi, pour moi, c'est pas, les ouvriers ne parlent pas comme ça. Et donc je lui ai demandé de développer un peu, et elle me dit, oui, bah, par exemple, cette phrase là, je trouve ça absurde en fait, parce qu'on ne se bat pas pour ça en fait. Il y a des choses beaucoup plus importantes, et en fait, ça, c'est. Quelque part, ça ne faisait pas partie de son idéologie ou de son projet de lutte syndicale. Et donc, quelque part, ça ne devait pas exister. Mais alors, si on enlève cette phrase-là, et si on enlève les phrases que le patron veut qu'on enlève, on peut se poser la question de qu'est-ce qui reste. Et en tout cas, nous, on se disait que même s'il n'y avait qu'un ouvrier qui, sur les 1500 qui pensait ou qui avait prononcé cette phrase, elle avait peut-être le droit d'être là quand même. Ne serait-ce que pour justement créer de la question. Nous, on n'est pas là pour imposer un discours, ou poser une idéologie, ou être raccord avec une des idéologies, qu'elle soit syndicaliste ou patronale, mais en tout cas venir ouvrir des espaces. Et donc ces phrases qui sont des affirmations, en fait, sont plus des sortes de questions posées dans un espace. Et, voilà. Mais en tout cas, par la suite, on a commencé à discuter un peu plus avec les syndicats. Il a fallu un petit peu de temps, mais au final, on s'est d'abord interrogé. Enfin, je parle de ça parce que je pense que c'est un des endroits intéressants. On s'est interrogé à un moment de se dire, mais pourquoi tout le monde dans l'usine aime notre travail, notre opposition, c'est-à-dire que les syndicalistes, à un moment donné, ils aimaient notre travail, notre présence, les patrons aussi, la direction de la com aussi. C'est hyper bizarre, parce qu'a priori, ils ont des intérêts divergents. Et ça, c'était une discussion qu'on avait eue, de se dire qu'en fait, ils n'ont pas que des intérêts divergents, mais ils ont aussi des intérêts convergents. Et ces intérêts convergent le travail, et nous, c'est l'objet de notre recherche.
Et puis, ils ont peut-être aussi un regard différent sur votre production artistique. C'est aussi le point de vue qui va déterminer que tout le monde aime le travail, mais tout le monde n'aime pas de la même façon. Moi, en tout cas, c'est une interrogation que je me fais, mais je pense que c'est peut-être un des critères de l'évaluation individuelle des résidences, mais peut-être un des critères de réussite, c'est peut-être ça, c'est peut-être la multiplicité des regards qui a des compréhensions diverses en fait du travail que vous faites. La direction, elle ne regarde peut-être pas le travail de la même façon que le syndicaliste qui est secrétaire du comité d'entreprise. Ça, c'est intéressant. Dans les choses qui ont été promises, vas-y, Raphaël. Dans les choses qui sont assez marrantes rétrospectivement en fait dans cette histoire, c'est qu'on parlait du prescrit réel entre ce qui est affiché sur une fiche d'interdit et ce qui se passe vraiment. Je disais tout à l'heure, toi tu travailles beaucoup sur la question de la relation, et effectivement c'était le bon endroit en fait d'être dans cette usine là pour travailler cette question de la relation avec les salariés. Et en fait, tu avais fait une proposition au départ en disant, je voudrais travailler dans le petit supermarché qui a 1500 salariés, donc il y a un petit supermarché, un petit supérette dans l'entreprise, qui est géré par le comité d'entreprise, qui est géré par le comité social et économique. Et moi, je voudrais être, tu avais dit, moi je vais être embauché là, pour être en immersion complète. Hein, ils m'embauchent, ils me font rentrer un travail pendant une semaine, deux semaines, même si pour faire le ménage ou je ne sais pas quoi. Et la direction avait renvoyé tout de suite. C'est là où je dis que c'est toujours compliqué en fait. Mais alors, tout de suite renvoyé en disant, non, je crois que ce crâne, tu avais le mot, c'est pas d'infiltration. Il ne s'agit pas d'infiltration. C'est une espèce de fantasme comme ça, de manipulation. Et du coup, forcément, il fallait dire, bah, si c'est pas comme ça qu'on rentre en relation, on va essayer de rentrer en relation autrement. Et c'est vrai qu'avec notre production d'images, elle a produit ce jaillissement en disant, tiens, il y a quelque chose qui s'impose dans l'usine. On invite les salariés à tourner leur regard vers nous, en fait, puisqu'on n'a pas le droit, nous, d'aller vers eux. Et je trouve que ce retournement du regard, bah, il est assez intéressant et juste subversif d'un point de vue objectif, en fait. C'est subversif sympa.
Oui, non, je voulais témoigner par rapport à cette idée de censure, déjà. Enfin, autant que je me souvienne, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu cas de censure vraiment problématique pendant les résidences en entreprise. Je pense qu'il y a eu évidemment des champs de négociation que les artistes ont eu à éprouver, les salariés aussi. Enfin, voilà, que dans la rencontre, il y a eu des modalités de coplasticité. Il fallait fallait s'entendre, il fallait voir jusqu'où on pouvait aller. Il y a eu différentes situations. Je peux citer par exemple celle de Nadia Lichtig, qui avait donc été invitée, enfin qui est allée dans l'entreprise Keolis, qui est une entreprise de transport, et qui avait une interlocutrice là-bas qui ouvrait les portes, mais qui était assez en roue libre en fait, c'est-à-dire qu'elle allait à la rencontre des salariés, elle allait les interviewer, elle prenait des photos, elle rendait pas trop de comptes, et la chargée de la communication, la directrice de la communication qui était son interlocutrice, la laissait faire, mais elle devait, je pense, négocier avec sa propre direction cette possibilité de laisser faire l'artiste, parce qu'elle avait malgré tout confiance, alors peut-être dans l'artiste, mais aussi dans la situation globale. Et je crois qu'elle avait une ouverture d'esprit qui lui permettait de prendre ce risque-là vis-à-vis de sa direction. Mais elle en témoigne aussi dans le catalogue. En fait, moi j'ai fait un abécédaire, il y a eu une enquête qui a été faite auprès des différentes parties prenantes pour recueillir la parole après coup. Et donc ça montre aussi un peu cette diversité, cette multiplicité de points de vue et de points d'entrée par rapport aux formes qui ont été produites et aux expériences qui ont été produites. Et donc elle témoigne de cette difficulté. Voilà, elle est en roue libre, qu'est-ce que je fais, je ne sais pas trop. Et ce que tu disais, Nicolas, sur ces différents points de vue, pour moi, c'est la condition de possibilité de ce type d'expérience, cette dimension polymorphe. C'est cet endroit de croisement. Voilà, il y a différents objectifs ou dessins. J'ai du mal à parler d'objectifs pour un projet artistique, mais en tout cas, voilà, différents désirs, une ligne de désirs qui se croisent. Il y a une forme, il y a une expérience, mais c'est possible de la regarder différemment selon l'endroit où on est et selon les conditions dans lesquelles on a envie d'être aussi. Voilà. Et aussi par rapport à cette question du tiers, il ne faut pas que j'oublie de mentionner que les sources ont. Enfin, j'ai eu vraiment l'aide précieuse de Marie Lindemann, qui dirigeait à l'époque, je ne sais pas si c'est le cas encore, mais l'association 3CA, qui était l'une des associations qui menait les projets des nouveaux commanditaires. Et ces projets nouveaux commanditaires supposaient vraiment un travail de relation avec des habitants, avec des salariés, avec des personnes de la société civile pour établir un lien avec un ou des artistes. Donc elle avait cette expérience-là et donc c'était un accompagnement très précieux qui faisait que les artistes étaient aussi accompagnés dans la relation avec l'entreprise. Pas toujours évidente. J'ai juste pour terminer le cas de Marie Reiner qui, elle, travaillait aux archives départementales, donc pas du tout un modèle de libéralisme, mais qui était finalement confrontée à la peur, à l'appréhension des salariés parce qu'elle voulait travailler sur les gestes improductifs. Et les gestes improductifs de la part des fonctionnaires, c'est tout de suite la peur qu'on comprenne qu'ils ne font rien, et donc il a fallu vraiment qu'elle montre que, un peu cette idée du temps, passer du temps à discuter, à échanger, à s'apprivoiser mutuellement pour arriver à baisser la garde en fait, et à montrer qu'on n'a pas forcément de mauvaise intention. Et Marie, elle se trouvait un petit peu prise entre deux feux, à la fois elle se trouvait un peu cobaye quelque part dans ce lieu-là. À la fois, elle devait prouver qu'elle était capable de créer du sensible, hein, parce que c'est le rôle des artistes quelque part, mais aussi qu'elle avait une méthode de travail, et donc elle était dans des injonctions contradictoires qui n'étaient pas toujours confortables, et c'est le cas de beaucoup d'expériences.
Oui, peut-être aussi pour dire, par rapport à cette expérience, un peu en lien avec la censure, enfin en tout cas, je ne sais pas si c'est vraiment de la censure, mais en tout cas, tous les freins qu'on a eu au départ, c'était assez intéressant de travailler notamment avec Travail Culture, parce que je pense qu'au départ, dans les premières réunions, on l'aurait volontiers volé dans les plumes, en tout cas moi c'était un peu le cas, parce qu'on était vraiment considérés presque comme des enfants, on était repris sur la manière dont on parlait, c'est-à-dire que quand on commençait à parler des propositions de projet, on nous reprenait sur le fait que, notamment, il ne fallait pas parler d'ouvrier, parce qu'en fait c'est un mot qui n'existe plus, on parle d'opérateur maintenant. Et genre, on nous reprenait sur nos mots, et enfin... Oui, l'entreprise, je ne parle pas de travail et culture. Non. Mais donc, en tout cas, comme je disais, notre travail culture a fait ce lien aussi d'être là comme un peu pour tempérer un peu ou transformer les mots. C'est-à-dire que des fois, on produisait des notes d'intention et que vous avez la connaissance et l'expertise aussi pour savoir quel est le discours qui est entendable par une entreprise. Et ça, ça nous a aussi aidé de prendre le temps d'accepter, pas comme un renoncement, mais de se dire, ok, en fait, on va parler la même langue et on va pas s'énerver, parce que sinon, ça mènera à rien. En tout cas, ça porte ses fruits, parce que 2 ans après, on a de plus en plus de facilité à travailler avec cette direction. Et il y avait une petite anecdote au départ qui était qu'on était notamment intéressé du fait que cette usine, Stellantis, il existe exactement la même, qui produit la même chose en Inde et en Autriche. Il y a une usine qui est low budget, une usine high budget, et Valenciennes se trouve entre les deux. Et nous, on avait tout de suite imaginé, ah, mais il faut qu'on fasse quelque chose avec l'usine en Inde, une correspondance réelle ou fictive. Enfin, ça nous a taraudé beaucoup, et quand on parlait de ça, c'était non, mais vous, les artistes, vous êtes vraiment des rêveurs, mais c'est pas possible, c'est trop compliqué, c'est machin. Donc, on a presque mis de côté cette idée, même si elle est toujours restée là. Et là, en fait, récemment, c'est-à-dire 2 ans après, la directrice de la com, qui était la personne quand même la plus dure avec nous au départ, elle revient vers nous en nous disant, comme ça, l'air de rien, entre deux conversations. Tiens, j'ai fait des recherches là, sur l'ancien directeur de Valenciennes, c'est maintenant directeur du site indien. Et j'ai son contact, et c'est un Français, et voilà, je vous dis ça comme ça. Et on est là en train de se dire que, en fait, ça s'est complètement inversé, et que maintenant on se rend compte qu'elle est un peu ambassadrice du projet, dans un sens où, en tout cas, ça commence à la faire un peu rêver, alors qu'au départ, elle voulait calmer les ardeurs de toutes les propositions.
Ah, il y a une question là-bas.
Oui, je suis administrateur de Travail et Culture, et je voulais ajouter parmi les différences que Travail et Culture n'a pas recours au mécénat. C'est important, parce que qui dit mécénat dit dicter quelque chose sur le projet. Je tenais à le préciser.
Et puis pour compléter
la question. Je peux répondre juste à ça? Oui, parce qu'en fait, oui et non. Parce qu'en fait, en tout cas, dans le cadre de la biennale, le cadre, le contexte global est effectivement un contexte de mécénat. Mais dans la mesure où il y a quand même un retour d'argent public par le biais de la loi sur le mécénat de 2003, ça laisse quand même une liberté pour agir, parce que ce serait vraiment un problème si l'entreprise devait donner des instructions et des consignes. Donc ça reste quand même un projet artistique qui est défini sur des critères artistiques, en tout cas de ce que j'ai pu vivre, et ça valait à tous les niveaux des projets de mécénat.
Merci pour tout ça. Je voulais savoir, par rapport, est-ce qu'il n'y a pas toujours une crainte par rapport au piratage industriel, en fait, dans toutes ces interventions d'artistes? Est-ce qu'on a examiné votre passé, etc., si vous avez des contraintes de ce genre-là? Oui, j'ai une question à propos de ce que vous avez amené tout à l'heure de la mémoire et de l'histoire, qui, me semble-t-il, est assez cruciale dans l'entreprise, en particulier dans l'entreprise, dans ce type d'entreprise industrielle, parce qu'on peut dire que le lieu de travail est un espace physique, mais c'est aussi un espace psychique. Et on se déploie l'imaginaire aussi. De fait, l'imaginaire est contingenté par tout ce que vous avez décrit tout à l'heure. Voilà, donc peut-être, est-ce que vous pourriez revenir sur ce que vous nommiez tout à l'heure, ce travail de la mémoire et de l'histoire, et peut-être aussi de ce que votre présence dans un temps donné a pu constituer en lui-même un moment mémoriel. Non, je ne parle pas tant de votre côté, hein, mais du côté des ouvriers.
Oui, peut-être. J'ai le sentiment que dans cette usine, il y a une autre expérience de temps que le temps humain. Donc avant, il y avait des fêtes, par exemple à Saint-Étienne, il y avait une fête, il y avait un repas pour tout le monde. Et là, ils ont discuté que ce jour de vacances s'est ajouté au jour de, aux vacances de Noël. Donc tout ce qui était un peu des moments, des rituels, des moments marquants dans l'année, ils ont disparu. Ils sont devenus des avantages financiers. Mais donc c'est très difficile de parler des moments clés dans l'histoire de l'usine qu'on aimerait bien avec notre machine à habiter de retourner, d'y retourner régulièrement, mais vraiment des moments marqués, donc tous les deux mois, et de toujours performer une même rituel, parce qu'on a convaincu que ça fait une différence dans l'expérience de l'usine. On essaye quand même. Et donc, c'est aussi. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de gens qui nous disent: ah, finalement, votre projet est fini, la machine est réalisée. Et nous, on répond toujours: on a le sentiment que ça commence seulement.
Et d'autres questions?
C'est vrai que ça commence seulement, puisque l'activation, ça implique de constater ou pas la façon dont les personnes, les salariés, s'emparent en fait de cette machine à habiter en fait. Comment cette machine à habiter ne devient pas une machine à habiter, mais leur machine à habiter, puisque les livres d'artistes, dont quelques un exemplaire unique, sont sur cette table actuellement, ramené gentiment par Maxime, ce qui est l'œuvre de la machine à habiter, c'est un espace de repos, puisque les salles de pause chez Félantis ont de nom que ont de pause que de réflexion, de suspension du temps, et en même temps d'exploration d'un imaginaire du travail à travers ces différents livres d'artistes qui ont été produits in vivo, quoi, dans l'usine, à partir de tout ce que vous avez présenté, les traces, les intérieurs ennemis, les mains, et puis les paroles. Donc, ouais, le succès, à mon avis, in fine, un critère de plus, c'est la façon dont la machine à habiter est investie, en fait, ou sera investie par les salariés à qui elle s'adresse. Et c'est sûr, ça va marcher.
En tout cas, ouais, nous, on s'intéresse aussi, on s'intéresse beaucoup à cette idée de faille, ces interstices qui, au-delà d'un protocole bien établi, tout d'un coup, vont être habités par des personnes, en fait, parce que c'est des humains, c'est pas des robots qui répondent à un protocole. Et ça nous intéresse, que ce soit d'un point de vue du geste, c'est-à-dire que quand il y a un geste à faire sur une ligne de production, il y a une manière de faire pour qu'il dure à peu près 38 secondes, sauf qu'en fait, il y a autant de manières de faire que d'ouvriers, et ça nous intéresse. Ce rapport au temps, par exemple, qui apparemment est aussi complètement bloqué, quand on nous a dit qu'on ne pourrait pas parler aux ouvriers parce qu'ils n'ont pas le temps, il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, c'est quand même bien de le rappeler, parce qu'on se dit « mais c'est pas possible ». Sur une journée de 8 heures de travail, les pauses, c'est une pause de 10 minutes, une pause de 20 minutes. Voilà, c'est encore possible. Donc en effet, ça laisse pas beaucoup de temps. Cependant, il y a des pannes. Et là, tout d'un coup, il y a du temps qui est libéré pour faire des choses. Et ça, c'est aussi des espaces qui nous interpellent. C'est pour ça que cette machine, elle sera peut-être pas habitée. Et je sais pas d'ailleurs si on pourra considérer que c'est un échec. En tout cas, elle sera là comme un espace possible, un espace potentiel, qui est à la fois un espèce de cheval de Troie, parce que là où au départ on n'avait pas le droit d'exister quelque part dans cette usine, bah maintenant on a quand même un bâtiment en dur. On verra ce qu'on en fait. Est-ce que ce sera un observatoire? Est-ce que ce sera un endroit pour se cacher? Je ne sais pas. Mais à travers des choses a priori très cadrées et a priori dans lesquelles il n'y avait pas de possibilité, en fait il y a toujours des petites failles et c'est un peu ça qu'on cherche.
Chose qui est venue, qui m'a intéressé beaucoup, c'est cette histoire de l'Inde avec le truc que vous faisiez, le type hyper moderne, il revient sur la proposition que vous aviez faite, si j'ai bien compris. Alors je me dis qu'en fin de compte, là, c'est pour comprendre le truc, il faut passer par le sport. En fin de compte, vous avez un ballon. Le jeu est lancé, mais où ça va, c'est pas vous qui se dépense, hein. C'est le rapport de force qui va se développer. Et peut-être que le type qui fait quelque chose en Inde, c'est aussi pas forcément dans l'intérêt des salariés, mais il a besoin de ce que vous avez découvert pour l'utiliser. Donc on n'est pas maître de cela. Donc en fin de compte, j'ai envie de dire que c'est vraiment pour moi la métaphore qui me vient le plus. C'est ça, c'est celle-là, c'est un sport. C'est jamais fini, ça rebondit toujours, ça va dans un sens, ça va dans un autre. Il faut tâcher, effectivement, et tout dépend pas vous, ça dépend, j'allais dire, des acteurs de l'entreprise, les salariés bien sûr, mais aussi les directions, parce qu'il n'y a pas une direction unique dans une entreprise, moi s'en fous, il peut y avoir des combats et des débats entre les directions. Deuxième chose que je vais dire, j'arrête là, mais c'est pour revenir sur l'expérience avec la Vienna. Le groupe dont parlait tout à l'heure, Raphaël, il s'appelait le groupe générateur de problèmes. Le groupe générateur de problèmes. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, si on se met, on dit qu'on vient pour générer des problèmes, pour que les problèmes, ce n'est pas vous qui allez les régler, certainement pas, mais en tout cas, on se retrouve avec un problème autrement posé, c'est déjà une avancée.
Ça, on va finir sur ces bonnes paroles de générateur de problèmes. Merci beaucoup à tous les quatre. Et on va enchaîner tout de suite avec la table ronde suivante.